Ça tourne.
Vous appelez quelqu'un?
Mais non, je fasse silence.
Parmi les témoignages de votre mère, il y en a un qui est resté célèbre. Lorsqu'elle évoque ses enfants, je vais la citer, elle explique qu'ils travaillaient tous bien, sauf un, Constantin.
C'est-à-dire que j'aimais, oui, j'aimais surtout chanter. Je préfère chanter que de travailler, mais enfin, j'ai quand même un peu travaillé.
Vous avez le souvenir de cette enfance vécue à Ajaccio?
Oh, Ajaccio était une petite ville. On vivait dans la rue, tout le monde se connaissait, on ne fermait jamais les portes. Les voisins venaient, même pendant qu'on déjeunait, n'importe quoi. C'était une espèce de... presque une communauté.
Alors c'était aussi l'époque des sérénades, c'est-à-dire que les jeunes gens, lorsqu'ils voulaient courtiser une fille, l'élu de leur cœur, eh bien, ils s'armaient d'une guitare, parfois ils appelaient des amis musiciens, et puis ils allaient chanter le soir sur les balcons.
Mais c'est-à-dire que après j'étais plus grand, quand on était adolescent, on allait porter les sérénades, mais les sérénades... C'était bien cette époque des sérénades parce qu'il n'y avait pas encore d'électricité à Ajaccio. Ce qui fait que c'était dans le noir. Et alors on chantait et on jouait de la guitare dans le noir, au bel. Et les sérénades, on les faisait pour soi et pour les copains. Moi, les trois quarts de sérénades, je faisais pour les copains. Pour une fois, j'ai fait une sérénade pour moi, on m'a envoyé un seau d'eau alors. Pendant que je chantais les pêcheurs de perles, le père de la jeune fille m'a envoyé un seau d'eau. C'est une des rares fois où je faisais une sérénade pour moi. Mais en général, on faisait une sérénade, on faisait comme Cyrano, quoi. Je faisais comme Cyrano, je faisais une sérénade pour les copains.
Vous vous rappelez de cette fille qui s'appelait Marinella?
Marinella, c'est une fille qui, la première fois que j'ai fait une radio, que j'ai passé à la radio parce que, la télévision n'existait pas. Et la première fois que j'ai fait une émission de radio, j'étais un illustre inconnu. Et j'ai reçu une lettre, pas 10, pas 1000, une lettre. J'ai reçu une lettre qu'on a envoyée au poste. Et que le poste a trouvé par hasard mon adresse et m'a la renvoyée. Il s'appelait Marinella. Et depuis, ça a été un fétiche pour moi.
Et c'est vous qui soufflerez ce nom plus tard à Vincent Scotto?
Oui. Oui, c'est moi qui lui ai dit. On dit comment on va l'appeler. Ben, c'était l'époque où aux chansons, on donnait beaucoup de noms de femmes aux chansons. Alors comment il fallait mettre un nom de fille, j'ai dit Marinella. Et voilà, je sais ce que ça a fait.
Marinella, reste encore dans mes bras, avec toi je veux jusqu'au jour, danser cette rumba d'amour.
Alors revenons à la période avant Scotto, je dirais, on va passer brièvement sur une étape de votre vie qui, ma foi, n'a pas été toujours rose. Ça a été d'abord une escapade à Nice, le service militaire, et puis un séjour difficile à Marseille. Là pourtant, vous allez rencontrer Petit Louis.
Oui, oui, évidemment, j'ai fait mon service militaire au 25, chasseur alpin. Après, je suis revenu à... j'étais fiancé avec une musicienne qui est devenue ma femme et qui m'a donné une fille. Après, j'ai été à Aix-en-Provence où j'ai rencontré justement un Petit Louis qui était un petit tourneur qui chantait également. Et je me suis lié d'amitié avec lui. On a fait des concerts comme ça le samedi et le dimanche. Et un jour, à Marseille, en effet, mon père était arrivé de Corse, et on marchait dans Marseille, et dans la rue Saint-Périol, je vois une pancarte dans une vitrine d'un marchand de disques, enregistrer votre voix. Mais attention, quand je pense, quand je vous dis ça, à l'époque, c'était, comment dirais-je, c'était le début de ces choses-là, des enregistrements. C'était pas comme maintenant où c'est où on enregistre pratiquement tout. Alors j'ai enregistré ma voix, je me souviens que je suis entré dans une petite cabine et le monsieur Mossé, je me rappelle le nom, ces choses-là, on s'en rappelle, et il y avait un petit disque en fer blanc, et puis il a pris une aiguille en bois, une petite aiguille en bois, il a dit, ben, on pouvait chanter, il a un peu marché le truc. Ben, je crois que j'avais chanté Aya Chouvel, et puis une autre chanson en français.
Scala friscolina, sominendo carezzi all'aia cina. Colli me redi pronti, colli me spondi cori, pensan che mezzo mari e mi dan forza di ben ramar. Aia ciubello vicino a te, l'anima è gradita, tu sei la preferita cantaruto soi, l'alatrice di zaffari, e li do scogli mi piaccia star.
Je crois que, vous voyez, d'instinct, vous savez, il y a, comment dirais-je, il y a une destinée, moi j'y crois. Pourquoi je suis rentré dans ce magasin et enregistrer ma voix? Pourquoi? Je ne sais pas. Je crois d'ailleurs que comme j'avais commencé à chanter, je crois que dans mon esprit, maintenant ça me revient, c'était pour faire ce disque pour donner à mon père, pour le donner à ma mère, que mon père l'emporte en Corse pour le faire écouter à ma mère. Je crois que c'est ça. Parce que je n'avais aucune raison de rentrer au point de vue métier, j'y pensais pas à ça. Que ça pouvait servir. Et puis alors, quand il y avait un monsieur dans le magasin qui était un représentant de disques, des disques parlophones, et qui a dit, mais est-ce que vous voulez faire des disques? J'ai pensé, les disques, c'est comme se disait, est-ce que vous voulez la Légion d'honneur à l'époque? J'ai dit, oui, naturellement, si c'est possible, oui. Alors il m'a dit, bon, écoutez, laissez-moi votre adresse, je vous enverrai un mot. Je croyais qu'à demi, mais pas du tout. Un jour après, je reçois une nouvelle lettre avec un disque en surimpression. Pour moi, c'était une chose formidable, et qui me demandait de venir à Paris enregistrer. Alors c'est là où j'ai enregistré Tucciarella et Nina Nan, le premier disque corse.
Oh, Tucciarella, sei quanto t'adoro, le tue bellezze, le tue collane in oro, ciucciarelli in zuccherata, quante longa sta nottata.
Elle me dit, à Paris, mais vous n'avez pas d'autres chansons. Je dis, vous m'avez demandé un disque, moi je vous en fais un. Et c'est comme ça que c'est parti.
C'est quand même extraordinaire que le destin passe par un élan du cœur, parce qu'au fond, c'est un élan de générosité, c'est l'affection pour vos parents qui ont, disons, pratiquement forcé le destin.
Oui, sûrement, parce que vous savez qu'on était ici en Corse, on est toujours, j'espère, très attaché à ses parents et à sa famille. Et alors, je ne sais pas, c'est peut-être un petit péché d'orgueil. Je voulais envoyer ma voix à ma mère, n'est-ce pas? C'était comme un message.
Nina, la mia diretta. Nina, la mia speranza. Siete voi, la mia barca. Tormenta di parapena. Ode oi la nina nina.
Vous allez à Paris et entre-temps vous bénéficiez de l'aide de la grande Damia. C'est elle, paraît-il, qui va vous aiguiller, vous aider un petit peu à découvrir votre véritable jeu de scène.
Ah, ce n'est pas une aide, Damien. C'est pas Damien a été très gentil, j'aimais beaucoup. C'est pas carrément une aide, c'est-à-dire que après j'ai fait plusieurs disques et puis Colombien. J'avais entre-temps, parce que je ne veux pas vous raconter ma vie comme ça, mais entre-temps j'avais quitté Parlophone pour signer à Colombien. Parce que vous savez comment j'ai signé à Colombia. Quand j'ai fait Chicharella, Minichetti là, faisait passer le disque et tout le monde écoutait dans sur le coup Napoléon, écoutait Chicharella et Nininan. Et un représentant de Colombia, c'est très curieux, revient à Paris et parle à Jean Bérard, le directeur de Colombia, parle de ça. Écoutez, une chose extraordinaire, je me trouvais à Ajaccio comme ça, il raconte l'histoire. Et là-dessus, je suis convoqué, c'est-à-dire que vu le succès du premier disque, j'avais des offres un peu de toutes les marques, parce que comme je n'aurais fait qu'un disque, je pouvais signer ailleurs. Et puis, j'ai rencontré Jean Bérard, qui était jeune, vous savez, les jeunesses... appelle la jeunesse, et on a sympathisé également, et il m'a fait des... Enfin, j'ai parlé avec lui, je l'ai senti, comme on dit vulgairement, je l'ai senti cet homme, et en effet, j'ai signé à Colombia, j'ai commencé à chanter alors des tangos, des refrains de tango, parce que j'avais un accent corse, alors c'est une histoire formidable, parce que il y a un autre type de... Le directeur de l'enregistrement, alors, pas le directeur de la maison. Mais dit, vous comprenez, vaut mieux que vous commenciez par les refrains, chanter, parce que vous avez un accent corse. Alors moi, très corse, justement, j'ai dit, mais Chaliapine aussi a un accent, ça n'empêche pas. Et vous me comparez à Chaliapine. Je ne me compare à personne. Je ne me compare à personne, mais je vous fais remarquer que l'accent n'en a rien à voir dans le chant. Enfin... J'ai fait quand même quelques refrains, et alors quand j'ai fait le refrain, tout le monde voulait savoir qui c'est qui chantait le refrain. Alors il a bien fallu qu'on me fasse chanter autre chose, et j'ai commencé à chanter Marie-Lou et tout, ou Que vous faites de mon amour, en fait toutes les chansons de l'époque, avant le casino.
Sous le ciel clair de Sorrente, un beau jour, tu m'as paru si jolie qu'un seul regard de tes yeux de velours fut le soleil de ma vie. Que ton sourire fut tendre et câlin en me disant à demain. Marie-Lou, Marie-Lou, souviens-toi du premier rendez-vous. Dans nos cœurs à grands coups s'éveillaient les désirs les plus fous. Je sentis sur ta lèvre mignonne le frisson de l'amour qui se donne. Marie-Lou, Marie-Lou, qu'il fut doux le premier rendez-vous.
Vous appelez quelqu'un?
Non, pas silence.
Bon, vous allez être engagé pour la revue du Casino de Paris. Elle s'appelait, je crois, Parade de France. Et c'est là que débute votre amitié avec Scotto.
Oui, oui, j'avais vu Scotto à Lyon. J'avais connu Scotto à Lyon. J'étais en tournée avec Damien et Gilles et Julien. On faisait une tournée colombienne. Et Scotto m'a dit, viens me voir. Ma voix lui a plu, viens me voir à Paris. Puis moi, à Paris, j'ai oublié. Enfin, je n'ai pas oublié, mais enfin, je n'osais pas y aller. Parce que... Et puis quand Varna m'a engagé pour représenter le tableau Corse, dans Parade de France, vous savez, Parade de France, c'était toutes les provinces de France. Et quand il s'est agi de représenter la Corse, alors on a demandé, Varna a demandé, dans son entourage, et son entourage, il a dit, il y a un garçon qui chante à l'ABC, je chantais à l'ABC à ce moment-là, qui ferait très bien. Alors Varna m'a engagé. Et là-dessus, je dis, tiens, c'est le moment d'aller voir Vincent Scotto. J'ai été voir Vincent Scotto qui m'a fait Vieni, vieni au Corse Île d'Amour, tout de suite.
C'est vous qui allez dessiner votre costume de scène.
Mais évidemment, vous savez, quand on parlait de costume corse, c'est, pour eux, c'était... Comment dirais-je? Ils ne savaient pas du tout. Vous savez, à ce moment-là, la Corse n'était pas connue, elle n'était pas très connue. En 1934, vous savez, à Paris, vous parlez de la Corse, on connaissait, il n'y avait personne, enfin, ils ne connaissaient pas. Alors, encore moins les costumes. Je vous parle de la masse des gens. Alors, quand j'ai vu le costumier, j'ai dit, écoutez, moi, je vais vous faire un croquis, et puis vous l'arrangez un peu de façon... Et alors, c'est comme ça que j'ai chanté pendant des années avec ce même costume.
Alors, en attendant ces années, nous sommes au soir du 14 octobre 1934. C'est un jour qui a marqué votre vie. Alors, j'aimerais que vous essayiez de vous souvenir, que vous nous racontiez ce que vous avez ressenti avant, pendant et après votre entrée sur scène.
Bien, d'abord, c'est très curieux parce que je n'arrivais jamais à répéter. Pendant la répétition, tout le monde répétait et on dirait que, je ne sais pas, Varna avait une confiance, une confiance aveugle en moi, il disait, mais non, ça va aller. J'ai dit, ça va aller, moi je veux répéter, pas ça va aller, vous êtes marrant. Et alors, finalement j'ai répété, et il y avait trois belles filles, tout en rouge, vous savez, avec les cruches sur la tête, il y avait des rochers, vous savez, il y avait un... je descendais comme ça avec ma guitare, et la guitare aussi, ça a été un symbole, ça, la panoplie du chanteur corse, quoi.
Guitare dont ne vous serviez jamais finalement.
Oh, je faisais deux ou trois accords, c'est tout. Et alors je descendais et puis je commençais, je crois que je chantais à Chouvel, quelques phrases à Chouvel, puis j'attaquais au Corse Île d'Amour.
Au Corse Île d'Amour, pays où j'ai vu le jour, j'aime tes frais rivages et ton maquis sauvage. J'ai vu des lieux enchanteurs, pourtant au fond de mon corps je t'appartiens toujours au Corse
Est-ce que vous avez le trac?
Est-ce que j'ai le trac? Je l'ai encore, vous pourrez dire. Mais le trac panique des débuts est devenu un trac raisonné. C'est-à-dire qu'au début, vous avez le trac parce que vous vous dites, est-ce que je vais plaire? Et vous avez peur. Et maintenant, vous dites, est-ce que je serai à la hauteur de moi-même? On vous attend. Alors, il faut être... Alors, c'est un trac raisonné, mais, comment dirais-je, plus concentré, plus sur ses gardes, mais on l'a quand même. Enfin, tout au moins, moi, je l'ai. J'ai connu des copains qui n'avaient pas le trac. Par exemple, Hernandez n'avait pas le trac. Peut-être que les comiques n'ont pas le trac.
Contrairement à la plupart des vedettes de l'époque, ça c'est unanime, vous n'avez épousé le style de personne. Et même, je dirais plus, on a prétendu, peut-être à juste titre, que l'expression « chanteur de charme » est née grâce à votre présence, grâce à votre voix exceptionnelle.
Oui, je ne me souviens pas, parce que je connaissais les artistes d'avant moi, que ce soit Maurice Chevalier, que ce soit Georgel, il y avait Damia, il y avait, je sais pas, il y en avait, j'en ai connu, Jean Flore, j'en ai connu des tas. Mais il n'y avait pas cette appellation. Je n'ai jamais entendu avant. Moi, je crois qu'on m'a affublé de cette appellation, parce qu'avant, je n'ai pas entendu. On disait 10 heures, chanteur à voir. Ténor, ténorino, tout ça, mais enfin, je crois que c'est venu depuis mes débuts.
Et l'expression s'est justifiée, parce que ça va être véritablement la gloire, une gloire que finalement, même l'imagination arrive difficilement à traduire, à révéler de la bonne façon. Alors on va pas trop s'étendre là-dessus, je vais quand même, pour l'anecdote, citer ces petites histoires. Vous êtes un jour à Bruxelles, une jeune fille se jette sous votre voiture, et lorsque vous la relevez, elle murmure « Je vais mourir heureuse, écrasée par Tino ». C'est une anecdote, mais enfin, ça traduit quand même l'euphorie que vous avez provoquée chez les gens de l'époque.
Vous savez, il y en a des tas, je ne pourrais pas... D'abord, je ne sais pas, vous savez que je parle très peu et j'ai horreur de parler de choses comme ça. Oui, c'est vrai, il n'y a pas seulement une fois, mais 100 fois. Et beaucoup d'autres, encore plus... Enfin, non, moi j'aime pas parler de ça, mais c'est arrivé, oui.
Alors justement, l'anecdote était concentrée sur le geste d'une jeune fille. Moi, je ne voulais pas parler exclusivement des réactions des femmes, mais de la population en général. Vous dites que vous avez horreur d'en parler. Est-ce que justement, ça explique qu'il y a le revers de la médaille, ce qu'on appelle la rançon de la gloire?
Écoutez, ça arrive autrement maintenant, ça arrive à des gens plus âgés. Mais il m'est arrivé dans des concerts ou des galas, voir une bonne femme, moi... De faire 200 km pour venir me voir et me dire, en tant que je vous ai vu, je peux mourir. Ça m'est arrivé 100 fois. Et j'ai vu des hommes me regarder comme ça à la fin d'un spectacle et pleurer. Je leur appelais peut-être leur femme qui était morte ou quelque chose comme ça, qui était émue. Et ça il faut le dire, parce que on a toujours trop brodé sur le côté féminin, sur le côté des filles exaltées comme ça. Ils ne sont jamais attardés sur le côté humain de Tino Rossi. Vous comprenez? Quand je chante Ave Maria, c'est pas pour épater les petites filles.
Ave Maria. Mes pleurs. à toi qui fumeur. Rends-moi mon pauvre enfant. Ave Maria.
Toi-même, Papa Noël, c'est pas pour, comment dirais-je, pour faire entrer en transe une jeune fille de 16 ans, non.
Dans la gloire, il y a une part de rêve, à savoir, par exemple, jeune, vous adoriez Pagnol, avec la gloire, Pagnol, eh bien, vous le rencontrez, il devient votre camarade de travail, il devient plus encore, il devient votre ami. Ça, c'est la part de rêve de la gloire, mais n'y a-t-il pas des choses plus difficiles à supporter dont vous seriez volontiers passé?
Je ne crois pas. Moi, je crois que j'ai choisi ce métier, j'ai réussi dans ce métier. Eh bien, il faut en prendre l'entière responsabilité. Parce qu'on me dit, est-ce que ça vous fatigue? Ben oui, ça fatigue, oui, ça agace des fois. Mais enfin, on l'a choisi, on vit de ça. Alors, il faut en supporter les inconvénients. Marcel Pagnol est devenu mon ami, et j'ai fait la belle manière avec lui. Et puis, je suis devenu son exécuteur testamentaire à sa mort. Pagnol avait une confiance illimitée en moi. Il le disait, il m'aimait comme un frère. Pagnol, pour moi, était mon frère. Il est venu ici, il a resté 3 semaines ici chez moi. Et tenez-vous bien, c'est la première fois qu'il prenait un bateau de sa vie. Il a traversé pour venir me voir. C'est la seule fois qu'il a pris un bateau de sa vie. Lui qui a écrit Marius, ça paraît aberrant.
Grand merci, cher ruisseau, mon cher ruisseau, merci, la chanson de tes eaux m'a mené jusqu'ici, m'a mené jusqu'ici. Mais l'as-tu fait exprès, tout mon cœur était prêt. Ton doux charme fauve peut changer mon destin.
Votre carrière internationale a débuté aux États-Unis. Et oui. Alors, les journalistes ont dit que votre arrivée, eh bien, a été carrément rocambolesque. Vous vous rappelez?
Elle a été rocambolesque, je vais vous dire pourquoi. Nous ici, au point de vue syndical, on était un peu à l'époque en retard des États-Unis. Moi, je ne savais pas que les syndicats étaient si importants. Ce qui fait que quand on est arrivé, j'avais pris le Normandie, qui était le plus beau bateau de la terre. Parce que j'avais un appartement avec un pont à moi, un pont spécial. C'était l'époque où les artistes. Enfin, ça se faisait, comme les belles voitures, comme tout le reste. Et j'arrive à l'immigration, et on me dit, vous allez chanter à la radio. J'avais mon contrat de film. Ah, je dis, naturellement, je vais chanter à la radio, comme je l'aurais dit ici. Ah, est-ce que vous avez un contrat de radio? Non, parce que moi, à Paris, j'ai dit, la radio, il vaut mieux que je voie de moi-même. Je peux signer un contrat sans savoir où je mets les pieds. Ou je mets la voix plutôt. Alors, il me dit, ah, alors là, vous ne pouvez pas débarquer. D'avoir dit ça. Alors, ça fait toute une histoire. Et, comment dirais-je? Ah oui, on téléphone au président qui était Spiros Kouras, qui était le président de la Fox, la 20th Century Fox, qui m'avait engagé. Et lui s'est déplacé. Et il est venu nous chercher, il est venu, il a expliqué, etc. Et on a été à Long Island pour tous ces machins. Il est venu avec nous, et Skouras, qui était grec, américain, mais enfin de souche grec, il dit, mais vous savez, vous en faire, moi, ils m'ont fait le même coup quand je suis arrivé ici. Et voilà, ça a commencé comme ça. Mais par la suite, j'ai fait de la radio, naturellement. Thank you.
Vous appelez quelqu'un?
Non, pas silence.
Tino Rossi est donc aux États-Unis pour faire de la radio. Et il y a une chanson qui s'est inscrite numéro 1 pendant 28 semaines au plus important hit parade américain de l'époque. Elle est reprise sous diverses manières. Je crois même que Glenn Miller va la reprendre à son compte.
Ah oui, viens, viens, il y a... Et comment elle s'appelle? Il m'a écrit d'ailleurs quand je suis arrivé là-bas. Il m'a écrit, il m'a dit qu'il s'était servi de mon disque pour la prendre. C'est Rudy Vallée. Rudy Vallée qui était une très grande vedette à l'époque. En même temps que... Enfin, il y avait lui et Bing Crosby qui étaient les grandes vedettes de l'époque. Et il m'a écrit un mot en disant bienvenue, etc. Qu'il s'était servi de mon disque, il avait écouté mon disque, il avait fait Vieni, Vieni, qui était le numéro un, il est resté le numéro un en Amérique pendant très longtemps. Et quand j'ai été à l'hôtel Pierre, j'étais à l'hôtel Pierre, justement, avant que je reçoive ces lettres et tout ça, et j'entends Vieni, Vieni. Alors j'ai dit, c'est formidable, ça me passe Vieni, Vieni, c'est gentil ça. Alors, je ne savais pas que Vieni, Vieni était un énorme succès. Et quand on est arrivé à l'hôtel Pierre, où j'étais descendu avec Spiros Kouras, avec Marouani qui était avec moi déjà, l'orchestre de l'hôtel, il y avait un orchestre à 10h du matin, joue Vieni, Vieni. Alors quand je rentre comme ça, je venais bien, moi j'étais fier comme un tabac, j'ai dit, ça c'est gentil quand même, au moins ils reçoivent les artistes avec Vieni, Vieni. Pas du tout, c'était pas pour moi spécialement, ce que Vieni, Vieni était un succès, comme vous diriez, je sais pas moi, Stranger in the Night ou Ramona ou n'importe. Mais moi je croyais que c'était pour moi. Veni, 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 tu sei bella, 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 accanto a me. Paola, sei la più bella, mia rondinella, fin nel mio cuore. Una canzone d'amore. Veni, 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 tu sei bella, 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 accanto a me. Veni, 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 tu sei bella, 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 accanto a me. Oh, oh, la più bella, mia rondinella, in nel mio cuore. Una canzone d'amore.
Aux États-Unis, vous avez refusé une aventure cinématographique.
Ben, c'est-à-dire qu'il m'offrait une opérette, c'était une opérette, c'était l'histoire d'un prince russe qui devenait danseur mondain à Montmartre. Et alors là, je vais vous dire, j'ai vu ça avec des yeux de français, et j'aurais dû le voir avec des yeux, avec la mentalité américaine, parce que là-bas c'était nouveau. Et nous, en France, les princes russes qui étaient chauffeurs de taxi ou danseurs mondains, il y avait des années qu'on les voyait. Je ne veux pas faire un film comme ça. Et comment dirais-je, qui daterait, quoi, comme ça. Alors, je n'ai pas voulu le faire. Comment c'était déjà Balalaika. Il y avait un air qui disait et j'avais tort, je crois, j'aurais dû le faire, j'étais jeune, j'aurais dû le faire. Alors pour les Américains, ça aurait été nouveau, et moi, en pensant en français, je disais qu'on passe un film, on passe ce risque de devenir danseur mondain à Montmartre.
Oncle Bill, où vas-tu sur ton vieux cheval? Quand le vent fait danser les étoiles, Oncle Bill, avec toi je veux voir passer les fantômes des chariots des pionniers. Est-il vrai qu'il sent bon conquérir l'horizon, traquant les Indiens, chassant les noirs bisons? Oh, répond Oncle Bill dans la nuit, le Far West est grand, il fait peur à mes rêves d'enfant.
Et puis en parlant de l'Amérique, justement, j'étais avec Mireille Balin à ce moment-là, qui était engagée à la métro et qui voulait foutre le camp, qui ne voulait pas rester. Elle avait un cafard noir, elle était à Hollywood, moi j'étais à New York, enfin ça a été... Et un beau soir, elle est débarquée à New York comme ça. Et c'était le soir où j'étais reçu par LaGuardia, qui était le maire de New York, et qui avait fait une soirée pour moi à El Morocco. On est arrivé là, j'ai dit qu'est-ce que... On est rentré, j'ai trouvé l'excuse que je ne savais pas, que je ne pouvais pas parler l'anglais. Enfin, c'est idiot, parce qu'on peut toujours. Et elle est rentrée avec un contrat, elle avait un an à réfléchir, tellement il la voulait, parce qu'elle était bien, cette fille. Et voilà, nous sommes rentrés en France après quelques mois d'Américain. Et puis, je vous assure, on avait le cafard parce que, à l'époque, c'était loin, l'Amérique. Il y avait très peu de Français. C'était loin. Maintenant, quand je pense qu'on peut aller chanter le soir, revenir, ça paraît aberrant. C'était loin. Enfin, je ne regrette rien.
De toute façon, vous n'avez rien à regretter, puisque des films, vous en ferez, mais en France.
Et puis, il y a une autre chose aussi, c'est que LaGuardia, justement, c'est lui qui m'a annoncé la guerre. Oui. Il m'a dit, mais vous rentrez en France, vous savez qu'il va y avoir la guerre. J'ai dit, comment il va y avoir la guerre? Moi, j'ai dit, pensez-vous. On était en 38. Et en effet, il y a eu Munich, on est rentré, il y a eu Munich, et puis malheureusement, il y a eu la guerre après.
Vous pensez que les artistes comme vous ont pu aider les gens qui vivaient dans la misère, dans la souffrance pendant cette guerre?
On aide même pendant la guerre encore plus, mais encore, même sans la guerre. Sans la guerre, je reçois beaucoup, beaucoup de lettres de malades, et de beaucoup. Par exemple, quand je fais des concerts, il y a toujours un rang ou deux rangs d'handicapés. Toujours, toujours.
Et que ressentez-vous, vous, lorsque vous savez qu'il y a des gens comme ça, qui ont des peines, qui ont des difficultés dans la vie?
Je ressens beaucoup de choses. Je me dis... Enfin, c'est peut-être idiot ce que je vais dire. Je suis heureux que je touche ces gens-là. Je me demande, je dis, mais comment ces gens-là? Donc, c'est que ma voix les touche. Et ça me fait plaisir parce que ça les touche, que ça les soulage un peu.
Alors en 1946, la guerre est terminée. Là, vous allez tourner un film qui s'appelle Destin.
Oui, Destin, j'ai tourné. Oui, c'est ça. En revenant, j'ai tourné Destin. Destin, je fais un double rôle de deux frères, dont un est un voyou et l'autre est un chanteur. C'est moi qui choisissais les chansons. Il y avait une chanson qui s'appelait Destin. Je devais faire un tableau de nègre, un tableau avec, vous savez, je devais me barbouiller en noir. Je vais chanter un négro spirituel pour la première fois, en français naturellement, pour que tout le monde comprenne. Et il y avait des Américains, des Noirs américains qui avaient des voix énormes, magnifiques. J'allais faire avec eux une chanson. On avait déjà choisi la chanson. Et puis, ils sont rappelés d'urgence à New York. Et me voilà sans la chanson et sans le tableau. Et alors, il y avait Carlo Rim qui a fait les dialogues. qui me dit qu'est-ce qu'on va faire. J'ai dit, écoute, moi je me rappelle, on peut pas faire ça avec des faux noirs, avec des noirs qu'on trouvera à Montmartre et tout ça. Il faut des artistes, il faut oublier ce tableau, il faut faire autre chose. Et alors tout d'un coup, je me suis rappelé que j'avais joué à la Pastorale à Aix-en-Provence. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu penses d'un tableau de la Pastorale avec un beau Noël, avec les santons et tout ça. Oh, il dit, formidable, il y a des Noëls provençaux. Formidable. J'ai dit, non, il ne faut pas un Noël provençal, il faut un Noël français. Il faut un Noël nouveau, il faut une chanson de Noël, mais que tout le monde comprenne. Et me voilà cherchant ma chanson de Noël. Alors je recevais les compositeurs qui me jouaient des airs, je disais, oui, c'est pas mal, mais enfin, actuellement, j'ai un film, les Noirs m'ont laissé tomber, sont repartis à New York, alors je veux, voilà, on va voir. Et je cherche un Noël comme ça. Et un jour, il y a Martini qui vient me jouer des chansons. Alors il joue, je dis la même chose. Je dis, c'est pas mal, mais enfin, à ce moment, je suis embêté parce que je suis en train de tourner un film et je cherche un Noël pour mettre dans un tableau de pastoral, comme ça. Et voilà la destinée. Il était, et Martini, avec mon premier impresario qui s'appelait Audi Fred, qui lui avait été directeur de l'Empire avec Varna, du temps de Varna. Bon, à l'époque, l'Empire était le plus grand musical du monde. Et tout à coup, pour vous dire qu'un type de métier. Et tout à coup, il dit à Martini, petit Papa Noël. Moi, je commence à dresser l'oreille. Et Martini qui dit, oh, tu penses pas jouer ça, tu ne vas pas chanter ça. On l'a mis dans une revue à Marseille, ça n'a pas marché. Non. Ah, écoute, jouez là, on verra bien. Allez, mais c'est la mélodie de Noël, allez, je t'en sens. Petit Papa Noël, allez. Je dis, mais là, voilà la chanson. Voilà la chanson, c'est la chanson qui... Elle est venue comme ça. Mais je ne l'ai pas faite pour faire un succès, je l'ai faite pour le film. Et alors, elle a été dans le film et vous voyez le chemin que ça a fait.
C'est vrai qu'après le succès qu'a connu cette chanson, vous auriez dit un jour des journalistes, c'est quand même curieux, le destin est curieux. Moi qui ai passé ma vie à faire des chansons d'amour, c'est brutalement une chanson consacrée aux enfants qui fera peut-être ma gloire.
Oui, parce que... Non, mais les enfants, c'est de l'amour, les enfants. C'est quand même des chansons... Vous savez, les chansons d'amour, ça ne... Comment dirais-je... Ça ne s'adresse pas seulement à des jeunes gens. Il y a l'amour de ses parents, l'amour des enfants, l'amour, c'est un mot admirable, mais pour tout.
Et vous ne croyez pas que cette fête de Noël, qui était chère en Corse, où on a le sens de la famille assez prononcé, est en train de s'étioler, qu'il y a une société qui est en mutation, qui n'est plus comme avant?
Il y a très longtemps que je passe pas un Noël en Corse. C'est dommage. Je veux toujours faire un Noël ici, je ne réussis pas à le faire. Mais j'aimerais bien passer un Noël ici, en Corse. Parce qu'un Noël avant, oui, c'était formidable. C'était formidable. Et pour parler de Papa Noël, il y a une chose aussi que vous oubliez, c'est que on cherche toujours pourquoi ce succès. Mais par exemple, vous savez, les enfants ont l'habitude de dire petit Papa Noël. Petit Papa Noël. On le disait. Il n'y a jamais eu une chanson qui disait ça. J'en ai chanté des Noëls, et d'autres en ont chanté. Mais il n'y a pas une chanson qui disait d'un gosse s'adressant au Père Noël en disant « Petit Papa Noël », comme ils le disent couramment. Et puis ça a été aussi ça, puis le film, et puis elle était bien située dans le film, mais enfin, c'est une chanson qui est devenue un classique.
Ça tourne.
appelé quelqu'un?
Non, pas silence.
Tino Rossi, c'est aussi l'opérette. Il y en a une notamment qui s'appelle Méditerranée.
Méditerranée est venue, oui, parce que j'ai même refusé à Vincent Scotto de jouer l'opérette, parce que comme je faisais des films, à ce moment-là, le film n'est pas fini, travailler pour vous. Tandis que l'opérette, c'est tous les soirs pendant un an, pendant deux ans, comme Méditerranée. J'ai joué pendant deux ans. Et encore, je n'ai pas fait la tournée avec Méditerranée autrement, alors ça faisait cinq ans, six ans, c'est drôle. Alors, et puis, je sais pas, il y a eu l'époque des yéyés, alors tout le monde parlait des yéyés, bon, je dis, je vais pas me battre avec les yéyés, j'ai horreur de pisser contre le vent, je le ferai pas, et j'ai pensé tout à coup à l'opérette, et l'opérette est encore la destinée. Maurice Lehmann était à l'opéra, et... il me dit, écoutez Tino, j'ai toujours rêvé de vous avoir au Châtelet parce que je reprends le Châtelet, et quitter donc l'opéra pour reprendre le Châtelet. Et il me dit en souriant, il me dit, c'est votre entrée et ce sera aussi la mienne parce que je vais vous faire quelque chose d'extraordinaire, une mise en scène extraordinaire. Alors on s'est mis à travailler. Lopez a fait la musique. Vinci a fait les dialogues, et puis on a travaillé à Cannes tout le temps, enfin, on a travaillé vacances, vous voyez, mais on travaillait. Et un jour, Maurice Lehmann vient, dit, alors, vous en êtes, je dis, on en est, qu'on cherche un titre, croisière, on n'en veut pas, parce qu'il paraît que c'est pas bon. Croisière, toutes les choses avec le croisière n'ont pas eu de succès. Alors on cherche un titre. Et c'est Lehmann, Maurice Lehmann, qui dit, et pourquoi pas Méditerranée? Ah, je dis, ça c'est génial. Méditerranée, en effet, comme on se baladait en Méditerranée dans l'opérette, on l'appelait Méditerranée. Et Méditerranée a fait le beau soir de Châtelet pendant deux ans.
D'or ensoleillé, au rivage sans nuage, au ciel enchanté, Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté.
Ça représente la Méditerranée pour vous. Je vous aperçus en septembre dernier, vous promeniez tout seul dans le jardin d'un restaurant près de chez vous, les mains dans les poches, vous êtes mis face à la mer, vous avez siffloté.
Ben j'aime la mer évidemment. Je suis né au bord de la mer et j'aime la mer. D'ailleurs, en parlant de Méditerranée, Lopez et Vinci sont venus ici et c'est ici qu'on a fait Ajaccio. Et c'est moi qui ai trouvé la fin d'Ajaccio parce que vous savez que au son des guitares, et quand on chante, les corps se chantent, et puis et à la fin de certaines chansons, où ça n'a rien à voir d'ailleurs avec la chanson, ils disent l'enfant prodigue de la gloire, et finissent toujours comme ça. Et dans Méditerranée, ça tombait bien, je dis pourquoi on finirait pas comme ça? Et c'est pour ça que Méditerranée finit avec un bout de la l'Ajaccienne.
Si Napoléon revenait près de sa maison, Ajaccio, Ajaccio, lui aussi chanterait sa chanson. L'enfant prodigue de la gloire, Napoléon, Napoléon.
cette opérette, il n'y a pas un couplet qu'on vous a proposé de refuser, que vous, finalement, vous avez tenu à accepter. Un couplet, je crois qu'à un certain moment, la fable, l'actrice qui incarne votre mère, vous pousse une assiette et vous lui répondez « Maman, tu vas me faire grossir.
Ah, » Non, mais ça, on l'a fait exprès. Non, ça, c'est une ruse de métier. C'est une ruse de métier, c'est un gag. Il y a ma mère qui me voit et qui m'appelle. Elle sort de la maison, ça passe encore, certaines années. Alors elle dit, oh, je t'ai préparé ci, je t'ai préparé là, patatin, toutes les plats corses, etc. Alors, je dis, écoute, maman, assis, tu vas encore me faire grossir. C'était comme je n'étais pas très mince, alors, il voulait mieux en parler soi-même.
Je sais que vous êtes assez strict sur les chansons qu'on vous propose, que vous n'interprétez pas n'importe quoi, donc je présume que la Corse telle que vous la chantez est la Corse telle que vous la ressentez, telle que vous l'aimez.
Moi je chante la Corse telle que je la vois, telle que je la sens. Je crois que je chante la Corse éternelle. Je la vois comme ça.
Quelle était cette Corse éternelle?
Mais moi je chante la Corse éternelle, c'est l'amour de l'amour du pays, et la beauté des sites, l'amour de ses parents, tel qu'on l'a toujours connu.
Commandeur de la Légion d'honneur, qu'est-ce qu'on ressent lorsqu'on est décoré à ce niveau-là?
On en est très fier, je suis très fier. Je n'aurai pas les faux modestes en disant que ça ne me fait pas plaisir. Ça me fait très plaisir. Je trouve que c'est un beau couronnement de carrière. Et puis vous oubliez que la Légion d'honneur a été créée par Napoléon. Alors doublement.
Comment se fait-il que vous n'ayez plus chanté à Ajaccio depuis, je crois, l'anniversaire du bicentenaire de naissance de Napoléon?
Je vais vous dire, je n'ai jamais chanté, moi, je me suis jamais fait payer en Corse. J'ai toujours chanté bénévolement, j'ai chanté pour la CA, j'ai chanté pour le bicentenaire, j'ai chanté pour, trois quarts du temps. Et puis je vous dirais qu'on ne m'a jamais demandé.
Puis je me permets de dire que ça me surprend quand même, que je sais bien que nul n'est prophète en son pays, mais tout de même il y a des proportions quand même à ne pas dépasser.
Et ça vous surprend peut-être, mais je vois qu'on a engagé un tas à coup de dizaines de millions et moi on ne m'a jamais demandé. Il croit peut-être qu'il faut encore que ce soit moi qui il dit je veux chanter.
In cori a me cantuna malacella, in cori a me speranza un cine più. Addio la me bella juventù. Paese caro addio a te, addio. Maria, la nuit peut venir, je sais que mon rêve me dira ton souvenir. Maria, nous ferons tous deux jusqu'au jour le plus beau des rêves d'amour. E fresca e pura quanto è l'alba appena nata, un rosolaio si è fiorito a tutte l'ora. Dammi la rosa la più bella e più bramata, quella che nasci e chi fiorisci il lodo cuore. fait vibrer le tendre espoir. Je voudrais que tu sois bien bohémien.
Il fait beau, la mer scintille, un bateau est sorti du port, un pain sous le vent léger s'endort, et sur le sable d'or passe une fille.
Que fait lever le soleil matin à l'instant du réveil? Tendrement poser tes perles de rosée sur la nature en fleurs, cher à mon cœur. Ciao, ciao, bambina, un jour on s'aime et l'on se quitte, l'amour c'est ça.
Ce soir, Nina, comment s'aimera? Je pourrais te griser de folles caresses et m'enivrer du parfum de ta jeunesse. Ce soir, Nina, oui, tu verras. Tous les deux nous vivrons leur enchanteresse. Je t'aurai dans mes bras, Nina. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans tes bras.
Et vous comptez chanter jusqu'à quel âge?
Oh, ça, j'en sais rien, vous savez. J'en sais rien, tant que je suis en... Pour le moment, ça va. Je me sens bien, ça va. Ça arrivera toujours assez tôt.
Finalement, dans la vie, il y a des gens qui ont de la chance, d'autres qui en ont moins. Je veux dire, avec le recul du temps, tant de succès, une vie de rêve, ce n'est pas un fardeau à supporter, parce que c'est vrai qu'il y a une part d'immortalité en vous, mais en même temps, vous êtes un être humain, donc un être mortel. Vous ne pensez pas quelquefois à cette fin tragique qu'on laisse tous les hommes finalement? La mort ne vous fait-elle pas peur?
Bon, la mort, j'y pense comme tout le monde. J'y pense encore plus maintenant que je suis âgé. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand je me réveille et que je vois ce golfe d'Ajaccio, ben, je ne pense plus à la mort.
L'ombre s'enfuit, adieu vos rêves. Les baisers s'offraient comme des fleurs. La nuit fut brève, hélas, pourquoi si tôt fermer nos cœurs à l'appel du bonheur? L'ombre s'enfuit, ma lèvre hésite à murmurer après de doux aveux des mots d'adieu. Le soleil paraît trop vite, faut-il donc que l'on se quitte?
s'enfuit. Tout n'est que son